Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce rendez-vous hebdomadaire avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Des mots pour le dire, après avoir cheminé avec vous à travers l'évangile selon Thomas, nous arrivons à des photographies, je dirais, d'événements qui vous ont marqué, sur lesquels vous revenez, à la fois par vos promenades buissonnières, comme vous dites, et puis aussi sur des éléments qui parfois à nos yeux passent de manière inaperçue, et vous, comme un cinéaste, zoomez sur tel ou tel aspect des bâtiments qu'on traverse ou on passe à côté sans se rendre compte. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le Christ compagnon. Alors, si vous me permettez, comme toujours, quelques citations pour démarrer. Donc je prendrai d'abord deux proverbes indiens. Le premier dit: le diable même a besoin d'un compagnon. Ensuite, le second: le compagnon de la femme est l'homme, le compagnon de l'homme est le travail. Et enfin, pour terminer, Henri Bonne qui disait: faites-vous le compagnon du vice et vous serez bientôt son esclave.
Absolument. Voilà trois citations concernant l'idée de compagnon qui m'est effectivement très chère s'agissant du Christ. Alors, cette émission-ci va répondre à la précédente concernait le Christ pélican, et je pense que les auditeurs se souviennent justement de quoi il s'agit. Dans le déambulatoire nord de la cathédrale de Montpellier, j'ai vu un autel portant un groupe sculpté représentant le pélican en train de nourrir ses enfants de sa propre chair. Donc il s'ouvre la poitrine à ce que l'on croyait, hein, et il distribue comme nourriture à ses propres enfants des lambeaux de sa chair. Et j'avais pris mes distances lors de la fin de cette émission avec cette vision du Christ pélican. Donc c'était une émission de critique un petit peu, hein. Alors que maintenant je vais faire une émission positive et je vais essayer de montrer dans la figure du Christ, non pas le pélican se déchirant la poitrine pour nourrir ses enfants, mais un compagnon qui nous accompagne dans notre cheminement, aux côtés duquel nous allons marcher. C'est cette deuxième vision du Christ qui personnellement me touche davantage. Bien sûr, je respecte tout à fait ceux qui ont la première vision, hein. Mais comme ici nous sommes dans une radio très libre, hein, et comme avec Redouane nous ne pratiquons pas la restriction mentale, c'est-à-dire le fait de dissimuler quelque chose que l'on pense en secret, eh bien nous mettons tout sur la table. Et bon, je remercie justement Redouane et FM+ de cette liberté qu'ils me donnent de m'exprimer. Je vais parler donc en mon nom propre. Alors, je vais partir d'une icône copte qui se trouve au musée du Louvre à Paris et qui représente le Christ et l'abbé Ménas. Alors, à la radio, hélas, Redouane, il est difficile de d'écrire...
C'est un véritable exercice.
Hein. C'est un exercice difficile de décrire quelque chose de visible. Hein. Cette icône fait la couverture de mon livre « La source intérieure », dans la seconde édition, d'ailleurs, qui est épuisée, et dans la troisième revue augmentée, qui va paraître incessamment chez Goliath. Hein. Alors, elle représente quoi? Elle représente deux personnages qui ont sensiblement la même taille, le Christ à droite et l'abbé Ménas à gauche. Hein. Donc il n'y a pas de position de domination du Christ, il n'y a pas de position de suggestion ou d'assujettissement ou de soumission de l'abbé qui lui est à gauche et qui est le disciple du Christ. Hein. Et à peu de choses près, à quelques détails près, peut-être le traitement un peu différent des deux auréoles, les deux personnages sont sur un pied d'égalité. Alors, le Christ, donc j'invite les auditeurs à essayer d'imaginer la scène, hein, l'icône, le Christ tient dans sa main gauche un livre, la couverture en est très riche, hein, il y a des ornements, justement, qui l'embellissent, et on devine donc, d'après ces ornements, qu'il s'agit du livre par excellence, donc de la Bible. Et n'oubliez pas que Bible signifie livre, normalement, au pluriel, biblia, hein, c'est un mot latin qui est calqué sur le grec, hein, les livres, hein, on dit le livre avec un L majuscule. Ce livre est donc un codex, hein, c'est-à-dire un livre comme nous le connaissons, que nous feuilletons. Quant à l'abbé, à gauche, il tient dans sa main gauche un rouleau, un volumen, qui est de plus petite importance, hein, comme si le contenu du grand livre, le codex, hein, était passé dans ce rouleau qui est de maniement plus aisé. Bon, par exemple, la différence, volumen vient de volvere, qui signifie enroulé, hein, dans la synagogue, on lit la Torah en déroulant un grand rouleau, c'est ça, hein, et c'est l'ancêtre justement du livre, avant que le livre ne devienne codex, c'est-à-dire quelque chose de relié avec des pages que l'on feuillette, hein. Alors, toujours d'Ammonicon, la main droite de Jésus se pose sur l'épaule droite de l'abbé en un geste d'accompagnement et de camaraderie. Cela me touche beaucoup, ce geste, hein. Et l'abbé, de sa main droite, fait un geste qui soit est un geste traditionnel de bénédiction, hein, soit désigne le compagnon qu'ainsi il peut remercier. Mais ces deux personnages ne se regardent pas l'un l'autre. En effet, nous sommes dans l'icône, dans un monde tout différent de notre monde habituel, tel que nous y sommes accoutumés depuis, par exemple, les tableaux de la Renaissance italienne. Hein. Dans l'icône, nous sommes au-delà de la psychologie ou du sentimentalisme. La psychologie, le mot vient du grec psyché, qui veut dire l'âme, c'est les sentiments ordinaires. Et les sentiments ordinaires n'ont rien à voir avec l'esprit, en grec le pneuma. Hein. C'est pour cela que les personnages sont présentés, non pas se regardant l'un l'autre, dans le cadre de la psychologie, mais nous fixant. Ils sont présentés de façon frontale, et leur regard, aux yeux démesurément agrandis, c'est un regard quasi hypnotique ou hypnotisant, comme il est de règle dans les icônes. Et ce regard semble fixer le chemin que les deux personnages ont à parcourir ensemble, côte à côte. Alors, voyez, Redouane, il me semble que cette icône nous donne de Jésus la meilleure image qui soit. C'est l'image d'un enseignant, d'un interprète ou d'un exégète du livre qui nous indique ce qu'on peut y voir, qui nous encourage à cheminer en sa compagnie et éclairé par ses conseils. Conseils que nous pouvons ou pourrons toujours nous remémorer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ainsi que le voient une fois qu'il les a quittés les pèlerins d'Emmaüs dans l'évangile selon Luc. Je cite Luc chapitre 24 verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, hein, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, vous voyez? Donc Jésus parle en chemin, en grec « entéodo », hein, dans la voie, dans le chemin, la voie qu'il a tracée, hein, en quelque sorte, ou qu'il repère, hein, et il nous explique, et dans le texte de Luc, littéralement, c'est « il nous ouvre », le verbe grec c'est « anoigein », il nous ouvre les Écritures. Donc c'est une voie VOX qui nous montre la voie VOIE. Hein. Et comme le disent les pèlerins d'Emmaüs, cette voix s'adresse au centre de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur. Et c'est ce que marque dans l'icône la généralisation de la perspective inversée. Il suffit de voir le traitement du livre que tient le Christ, hein, dans sa main. Ce livre met au défi toutes nos lois de la perspective occidentale qui, depuis la Renaissance, troue la toile par un point de fuite pour nous faire sortir hors de nous-mêmes. Cette figuration nous décentre vers ce fameux point de fuite situé loin de nous. C'est un art du détournement ou peut-être du divertissement loin de soi. Divertissement vient du latin divertere qui veut dire détourner, hein. Et au contraire, l'inversion de la perspective, le point de fuite étant en avant du tableau entre guillemets, si le mot a du sens ici, ou de l'œuvre, hein, l'inversion de la perspective situant ce point de fuite en avant de l'image, en direction de notre cœur, s'adresse au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire nous invite à l'écoute du message qui nous est proposé. Alors nous allons nous recueillir en nous-mêmes, nous allons retrouver notre propre centre. et revenant à nous-mêmes, nous opérons alors notre conversion ou notre retour. Conversion vient du latin convertere, qui veut dire retourner, converti, hein, faire retour, hein, être retourné en quelque sorte. Et on comprend pourquoi la représentation dans notre icône n'est pas naturaliste, mais totalement symbolique, parce que le sens en est entièrement spirituel. Et d'ailleurs, le fond d'or aussi supprimerait pour nous, s'il en était besoin, toute distraction de l'essentiel. Alors, ce retour à soi, je l'avais dit déjà dans une émission précédente, c'est dans l'hébreu de la Kabbale, Teshuvah, enfin c'est ainsi que la Kabbale, qui est la gnose juive, interprète la Teshuvah hébraïque. Hein. Pour le peuple, c'est le retour dans le giron de Dieu, hein, dans le sein de Dieu. C'est pour cela que, finalement, on traduit souvent par pénitence, faites pénitence. Hein. Mais pour la Kabbale, qui défend une version intériorisée de la Teshuvah, il s'agit de revenir à soi, au plus profond de soi-même. Alors en grec, ce qui calque le mot hébraïque teshuva, c'est le mot metanoia, qui veut dire changement d'état d'esprit. Alors là, même opposition se trouve. Pour le peuple, la metanoia, c'est le repentir, revenez à Dieu, faites pénitence. Et d'ailleurs, Jérôme, dans sa Vulgate, traduit metanoia par paenitentia, hein, paenitemini, faites pénitence, donc revenir dans le sein de Dieu. Mais on pourrait traduire, comme le fait Thomas dans son évangile, l'évangile selon Thomas, par « revenez à vous-même, allez jusqu'au plus profond de vous-même ». Alors vous voyez, Redouane, moi cet épisode des pèlerins d'Emmaüs me touche toujours énormément, hein, puisque j'y vois justement, dans le fait de cheminer ensemble avec le souvenir de ce que l'on a vu, la fraction du pain, hein, qui alors pour les catholiques figure l'Eucharistie, véritablement, hein, eh bien, marcher avec ce souvenir nous donne un avenir. Dans la vie, c'est le souvenir qui nous donne un avenir, vous voyez. Donc Jésus est apparu, puis il a disparu, et puis il transparaît maintenant dans la fraction du pain. Mais pour les pèlerins, il s'agit, qui sont des assoiffés de l'intériorité, notre cœur battait au-dedans de nous, vous voyez. Hein. Donc un peu aussi comme dans l'épisode de la transfiguration. Vous savez, Redouane, lorsque Jésus est transfiguré dans les évangiles synoptiques, il devient blanc, éblouissant, etc. Alors, les apôtres sont sidérés, ils sont pris par la sidération. J'ai appelé ça le taborisme, puisque la scène est censée se passer sur le mont Tabor. Hein. Donc, ils sont sidérés, et Pierre dit, mais il fait bon être ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie, puisque Jésus apparaît entre les deux témoins de la théophanie de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Mais l'évangéliste dit, il ne savait ce qu'il disait. Hein. Bon, il ne savait ce qu'il disait. Et ensuite, bon, Jésus redevient comme avant, une voix se fait entendre du haut du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est très important, ça, acouété, hein, un impératif présent, écoutez-le toujours dans toute votre vie. S'il s'était agi de dire écoutez-le maintenant et c'est tout, il y aurait eu un impératif aoriste, acousaté, hein, non, là vous avez auto acouété, écoutez-le toujours, donc. Cheminer maintenant, hein, avec le souvenir de cette voie. Voilà ce qui est indiqué aux apôtres. Alors, les apôtres redescendent de la montagne, ils ont été sidérés un moment, mais dans la vie, on ne peut pas toujours être sidéré, hein, il faut continuer de marcher, hein, et continuer d'avancer. Hein, et alors, qu'est-ce qui va nous donner cette force? Eh bien, ça sera cette voie entendue une fois. La voie, d'abord la vision de Jésus transfiguré, et la métamorphosis, comme on dit en grec, hein, et ensuite la voix qui descend du haut des cieux et qui reprend la parole d'un psaume, d'ailleurs. Hein. Donc, cette voix, ce sera notre viatique. Alors, qu'est-ce que c'est que viatique? Viatique, c'est un mot latin. Via, c'est le chemin. Hein. Non, c'est une provision de route. Hein. Dans la liturgie catholique, le viatique, c'est le dernier provision de route que l'on donne aux mourants. Hein. Bon, apporter le viatique, hein, pour accomplir le dernier voyage. Mais moi, je prends viatique dans un sens très large. Le viatique, c'est le souvenir de ce que nous avons entendu, parce que quelque chose nous a été expliqué, nous a été dévoilé.